explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Mais croyez-vous que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
C'est un territoire immense, grand comme 6 fois la France, situé entre le lac Baïkal et le détroit de Béring en Sibérie orientale. L'hiver, les températures peuvent atteindre les moins 70 degrés. Bienvenue en Yakoutie. Éric Trubézy arpente cette région du globe depuis une quinzaine d'années. L'archéologue en a fait son terrain d'exploration. Il fouille les sépultures, exhume des corps momifiés pour les soumettre aux analyses scientifiques les plus pointues. Il effectue des prélèvements d'ADN sur les habitants actuels de la région. Son but, retracer l'histoire du peuple Yakout, un peuple qui a résisté à tout, la rudesse du climat comme l'arrivée du voisin russe. Au gré de ses missions, Éric Trubézy a fait des découvertes auxquelles il ne s'attendait pas, vécu des aventures qu'il hésite parfois à raconter de peur qu'on ne le croie pas, lesquelles, nous allons le savoir, il est avec nous, le temps d'un bivouac.
Mes amis, je ne sais où nous allons.
Sur France Inter.
Parfait, alors si ça vous dit de faire un tour, allez-y.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Et bonjour, Éric Trubézy.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, professeur à l'Université de Toulouse. Vous venez de publier « Vainqueur ou vaincu, l'énigme de la Yakoutie » aux éditions Odile Jacob. Vous allez nous raconter l'émission archéologique que vous dirigez depuis une quinzaine d'années en Yakoutie. De véritables enquêtes scientifiques mêlant corps momifiés, croyances chamaniques, scanners aussi et analyses génétiques. Voilà pour l'étonnant programme de notre bivouac réalisé par Stéphanie Texier est préparée par Hugo Struna.
Leur histoire nous parvient du fond des âges, sous forme de longs récits chantés qui transmettent les valeurs fondamentales de leur culture et racontent leur épopée.
Le peuple Yakout est un peuple de tradition orale, Éric Trubézy. Ça complique la tâche de l'archéologue que vous êtes.
Ça complique la tâche, mais en fait des documents écrits, il y en a, mais ils n'étaient pas directement écrits par des Yakouts.
Ouais.
La Yakoutie, c'est, comme vous l'avez rappelé, ça se situe au nord du lac Baïkal. Et en fait, il y a un grand fleuve qui traverse la Yakoutie qu'on appelle la Léna, qui fait 15 km de large, par exemple, à hauteur de Yakout. C'est un des grands fleuves sibériens. Et c'est tellement éloigné de Moscou, 6000 km, que les Russes avaient pris depuis très longtemps l'habitude d'y envoyer leurs exilés politiques. Et ce qui fait que, par exemple, Lénine, pour tous les Russes, ça veut dire l'homme de la Léna, ça veut dire celui qui a été exilé.
Oui.
Et ces exilés politiques, ils s'ennuyaient, en fait, l'hiver. Et ils décrivaient la vie des Yakouts. Donc on a, à partir du 19e siècle, beaucoup de documents écrits sur eux, ethnologiques, en fait.
Oui, c'est ça. Ce sont des exilés politiques qui deviennent ethnologues par la force des choses, qui s'intéressent aux populations qu'ils sont en train de rencontrer.
Tout à fait. Ils s'intéressent aux populations qu'ils rencontrent. Certains, même, je dirais, ceux qui nous laissent les récits les plus attrayants, se marient avec des femmes locales et donc voient cette culture de l'intérieur.
Alors, qui sont-ils, ces Yakouts, que vous connaissez de mieux en mieux, de plus en plus? Qu'est-ce qu'on sait d'eux? Quelles sont les spécificités des Yakouts?
Mais Yakout, quand même, c'est une énigme. C'est complètement incroyable. Vous l'avez rappelé, il fait moins 50 à moins 70.
Ouais. Alors,
moins 70, c'est une pointe, mais les moins 50, c'est facilement 2 mois de l'année, janvier, février.
Ça, c'est pour l'hiver.
C'est pour l'hiver, oui.
L'été?
Parfois 35 degrés à midi.
Amplitude thermique de 100 degrés entre l'hiver et l'été.
Totalement.
Faut s'adapter. Hein.
Faut s'adapter, et même l'été, il arrive qu'il fasse moins 10 la nuit et 35 à midi.
Ouais.
Et comme disait un étudiant que j'avais amené sur le terrain, alors ça c'est absolument incroyable, on a la même amplitude dans la journée qu'à Toulouse dans l'année.
Dans l'année,
voilà.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est Yakout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'attendrait à trouver sous ces latitudes des gens qui vivent de l'élevage des rennes, voire même pour certaines personnes qui ne connaîtraient pas des Esquimaux, mais en fait non, ce sont des éleveurs de vaches et de chevaux. Et c'est cette chose extraordinaire qui nous a intéressés, c'est qu'on trouve à cette latitude des gens qui élèvent des vaches et des chevaux. Et ces Yakouts, en fait, parlent une langue d'origine turque, alors qu'ils sont entourés de gens qui parlent une langue d'origine sibérienne. Ouais.
Donc il y a une vraie question sur l'origine de ce peuple, d'où ils viennent et comment ils ont fait pour s'adapter si bien, parce que finalement ils ont pris la place des chasseurs-cueilleurs qui vivaient là avant eux.
Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque les Russes sont arrivés en 1620, quand les Russes ont conquis la Sibérie, et pour soumettre les gens à l'impôt, ils vont donc faire des recensements. Donc on sait à peu près combien il y avait d'Yakoutes qui vivaient à l'époque. Ouais. Et à l'époque, les Yakoutes, ils étaient moins de 40 000 dans des petits espaces, en Yakoutie centrale essentiellement. Et en 1922, c'est au moment où l'URSS apparaît, eh bien les Yakoutes sont plus de 200 000. Ils se sont étendus sur 3 millions de kilomètres carrés. Et les peuples qui vivaient autour d'eux, qui étaient des chasseurs-cueilleurs ou des éleveurs de rennes, étaient devenus minuscules et, je dirais, en voie de disparition.
C'est le succès de ce peuple qui vous intéresse. Vous essayez de percer ce mystère, de comprendre cette énigme. On aura évidemment l'occasion d'y revenir dans cette émission. Mais arrêtons-nous un peu sur votre parcours à vous, Éric Rubézy. Vous avez effectué vos premières fouilles archéologiques. C'était donc dans les années 80. Pas du tout à ces latitudes-là. Hein. Vous avez commencé dans la vallée du Nil. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes orienté vers ce territoire, pour nous, Européens, si rude?
Ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, c'est des études qui portent sur la génétique.
Ouais.
Et à l'heure actuelle, des études qui portent sur la génétique de la vallée du Nil, sur les populations anciennes, on commence tout juste à en faire parce qu'en fait, quand il fait très chaud, la matière organique se dégrade et donc l'ADN qui fait partie de cette matière est très mal conservé.
Mmh.
Et à l'époque, dans les années 2000, ces études étaient en pleine expansion et je me suis dit qu'il faut aller vers une zone froide. Et dans un premier temps, je suis allé en Mongolie. Et une fois que j'étais en Mongolie, j'ai vu que l'ADN marchait. Et je me suis dit, mais enfin, est-ce que ce serait pas mieux, plutôt que de trouver des squelettes, de trouver carrément des corps gelés? Et j'ai regardé la carte et il y avait la Yakoutie au-dessus.
Ouais. C'est le côté frigo de la région. Vous vous êtes dit, là, j'aurai de l'ADN conservé parce qu'il fait justement moins 70 degrés et que le sol est quasiment gelé en permanence, sauf l'été où il se réchauffe un peu.
Voilà, c'est ça. C'était le caractère frigo, ce qu'on appelle le permafrost, le sol gelé en permanence, qui en fait se dégèle sur une dizaine de centimètres l'été.
Alors c'est ainsi qu'en 2002, vous arrivez pour la première fois en Yakoutie. Alors à ce moment-là, vous êtes l'un des premiers Européens non originaires du bloc russe à venir arpenter, parce que vous allez évidemment le sillonner, ce territoire yakoute. Vous vous souvenez de votre arrivée, la première fois que vous avez mis le pied en Yakoutie? Comment ça s'est passé?
Alors, je m'en souviens très bien. En 2002, grâce à un ami, on connaissait, il me dit, ben voilà, on a une autorisation pour y aller. Et donc, je pensais que j'allais débarquer, rencontrer des officiels, discuter de ce que je voulais faire, enfin quelque chose d'assez officiel. Donc, l'avion qui arrive en Yakoutie se pose à 5h du matin à Yakoutsk. À 8h, je suis chez le président de l'université, qu'on appelle là-bas le recteur, et il s'avère que ce président de l'université était aussi patron du labo d'archéologie. On commence à discuter, et là, le recteur me dit « bon, mais maintenant, il faut y aller, quoi ». Je lui dis « mais allez où ?» Il dit « vous partez en fouille ».
Alors que vous ne veniez pas pour ça, vous avez très peu d'argent en poche. Vous avez
J'avais en tout et pour tout 500 dollars. C'était l'époque encore où il n'y avait pas de, il fallait payer en dollars en Russie si on voulait avoir d'échanger des devises. Ouais. Et là, il me dit, mais non, le camion vous attend. Ouais. Il y a trois collègues. D'ailleurs, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils n'ont pas fouillé et vous partez.
Donc, vous êtes là à peine depuis 4 heures et l'aventure commence déjà. Vous montez dans cette fourgonnette et vous allez fouiller les tombes yakoutes.
Voilà. Alors, nos collègues nous emmènent, en fait, pas très loin de Yakoutsk, sur un site archéologique qu'ils connaissaient très bien, celui sur lequel ils avaient fouillé avec leur professeur 10 ans auparavant. Et avec la chute de l'Union soviétique, les crédits avaient diminué, il y avait eu moins d'argent pour l'archéologie. Et donc, c'était une opportunité. Eux voyaient ce Français, ils ont beaucoup de sympathie pour les Français, les Russes qui arrivaient. Moi, je recherchais. Donc là, la fusion, ça s'est fait tout de suite, quoi.
Alors, vous allez, dans un premier temps, dans les 5 premières années, fouiller une 40aine de tombes. Ce sont des tombes de 3-4 siècles, c'est ça?
Tout à fait. Les Yakoutes, les tombes qu'on trouve s'étendent du 15e à, je dirais, début du 20e siècle.
Ouais. Et donc vous allez fouiller cette 40aine de tombes jusqu'à ce qu'un jour vous entendiez parler d'une tombe particulière qui semble entourée de légendes, qui suscite même une certaine crainte dans la population. On n'a pas trop envie d'aller regarder du côté de cette tombe. Quels éléments vous avez à ce moment-là sur cette tombe?
Un collègue avait entendu parler effectivement d'une tombe dans un village qui était sur un monticule, etc. Et donc on se dirige vers cette tombe. Et c'est à partir de là, effectivement, que les gens du village, il y en a certains qui viennent nous voir et qui disent « oui, c'est bien, il faut fouiller là ». Et puis, il y a une opposition qui se crée, ça devient une question politique, et d'autres pensent qu'il ne faut pas fouiller.
Ouais. Alors, vous allez vous adjoindre l'aide d'un des... Alors, c'est un forgeron, mais qui connaît très très bien la culture locale, le savoir de ses ancêtres. Et lui va vous accompagner dans votre démarche, ce qui va... la rendre acceptable pour le reste de la population locale.
Tout à fait, parce que donc nos fouilles sont des fouilles quand même franco-yakoutes. Ouais. On n'est pas en territoire, on est donc avec des yakoutes. Et les yakoutes nous disent qu'il faut aller rencontrer effectivement Mandar le forgeron, qui est un personnage qui s'est toujours intéressé à sa culture. Et les forgerons sont des gens qui, dans la culture yakoute, on dit qu'ils sont aussi forts que des chamans. Et donc il y a beaucoup de respect pour lui. Ouais. Et lui vient sur la tombe et comprend qu'il y a un intérêt historique.
Alors vous y allez, vous creusez, vous ouvrez le tombeau, qu'est-ce que vous trouvez ?
Alors, premièrement, déjà, ce qu'on trouve, c'est un corps qui est parfaitement bien conservé. D'habitude, on trouve des corps qui sont bien conservés, tandis que là, celle que nous appellerons Kiss était remarquablement bien conservée, avec des habits très riches. Mais au moment où on ouvre la tombe, on s'aperçoit déjà qu'elle avait été ligotée, et c'était le premier sujet ligoté qu'on trouvait sur la quarantaine qui avait déjà été fouillée.
Alors, je vous propose d'écouter la réaction justement de ce forgeron qui vous accompagnait dans vos fouilles, fin connaisseur donc de la culture de ses ancêtres. Et il était présent au moment, vraiment au moment où on ouvre le tombeau.
C'est une tombe unique. Au premier regard, on y voit de multiples énigmes. C'est une femme, on le voit à ses ornements. Ce sont les ornements caractéristiques des tribus qui protégeaient les troupeaux. Le style des vêtements, d'après moi, ce sont des vêtements d'été.
Regardez, c'est incroyable, le cuir a encore gardé sa souplesse.
C'est très bizarre la corde. On n'enterre pas ainsi les gens ordinaires.
À ce moment-là, précis, Éric Rubezy, on comprend. Alors, en plus, c'est étonnant parce que vous êtes accompagné par des caméras. C'est pour ça qu'on a le son, la réaction de ce forgeron. Mais vous ne vous attendiez pas, vous, à trouver quelque chose d'aussi énigmatique, quelque chose d'aussi unique.
C'est-à-dire qu'on était venu pour tourner un film sur ces tombes qui étaient déjà bien conservées. Et effectivement, on recherchait, je dirais, des tombes qui soient un peu exceptionnelles.
Donc là, on est en 2006, au moment où se produit cette découverte. Vous décidez d'orienter l'intégralité de votre mission sur cette momie absolument unique et originale qui regorge d'énigmes. Vous voulez savoir qui est cette personne que vous venez de déterrer. Et c'est ce que vous allez nous raconter dans la suite de ce temps d'un bivouac. Éric Rubezy nous emmène dans ses enquêtes archéologiques en Yakoutie, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Time is so running.
Ouais, c'était IBI sur France Inter.
Il faut qu'on réfléchisse tranquillement 10 minutes pour savoir ce qu'on fait, quoi.
On va prélever la tombe telle qu'elle pour pouvoir l'étudier.
Il faudra qu'on réfléchisse.
Parce qu'ici, on ne peut pas le faire. On va faire des gros dégâts, en fait.
Ce qui serait peut-être intéressant avant de la disséquer, c'est d'avoir une radioscopie corps entier. Je sais pas, voir avec nos collègues à l'hôpital Yakout si on pourrait éventuellement avoir un scanner.
Le problème, c'est que pour l'amener à Yakout, les routes sont complètement défoncées, ça va bouger de partout et risque aussi de se dégrader.
Est-ce qu'il y a des hélicoptères à Yakout ?
Oui, je sais.
Il faut qu'on le transporte au camp sur un brancard parce qu'il refuse de le transporter dans la voiture.
Un brancard à pied ?
Et les chauffeurs ne veulent pas le transporter parce que c'est un cadavre et comme en plus elle s'est peut-être suicidée, aucun des chauffeurs ne veut le transporter. Voilà, donc il faut essayer de faire un brancard pour le transporter au camp.
Bon.
Éric Rubézy, archéologue, nous étions en Yakoutie en 2006. Vous venez d'exhumer un corps momifié, très bien conservé, qui semble être celui d'une personne exceptionnelle dans la société yakoute. Et ce que l'on entendait là, c'est la concertation de toute votre équipe. Hein. On entendait aussi votre voix, savoir que faire de ce corps qui vient d'être sorti du sol, donc qui peut s'altérer, donc il faut agir vite. Il y a cette crainte des populations locales qui refusent de l'emporter dans leur voiture. Donc vous confectionnez un brancard de fortune. Et vous allez l'emmener où, ce corps, alors ?
On va l'emmener à Yakout, qui est la capitale de la Yakoutie. Donc on l'amène à Yakout en hélicoptère. Et là, on va d'une part lui faire passer un scanner. Et ensuite, on va réaliser une autopsie corps entier pour savoir qui elle est, ses éventuelles causes de décès.
Ouais. Alors qu'est-ce qui va ressortir de ces investigations très minutieuses ? Là, on change complètement de décor, on est, c'est un peu les experts face à l'énigme archéologique, hein, avec des technologies archi pointues. Hein. Vous allez mettre cette momie dans le scanner de l'hôpital de la capitale de la Yakoutie, à Yakoutsk. Qu'est-ce qui ressort de ces investigations ?
On va la déshabiller, cette momie. Il apparaît très rapidement que c'est une jeune fille de l'élite, parce qu'elle a des habits absolument extraordinaires, avec de la soie, des éléments de ce type. Et surtout, quand on arrive à la hauteur du bassin, elle porte une ceinture qui est assez particulière, avec de très nombreux pendants. On ne sait pas, à ce moment-là, à quoi correspond cette ceinture.
Ouais. Il y a d'autres choses mystérieuses. Elle a aussi les doigts cousus.
Oui, donc elle avait été attachée, ligotée, et en même temps, les manches avaient été rabattues sur ses mains et cousues autour de ses doigts. Donc elle était emprisonnée. Et il apparaît qu'en fait, c'est un sujet qui est décédé, ce qu'on appelle une mauvaise mort, c'est-à-dire que c'était un sujet dont les Yakoutes avaient peur que plus tard, ils reviennent les poursuivre. Mmh. Et donc là, se pose la question de savoir mais pourquoi, finalement, les Yakoutes pouvaient avoir peur d'une jeune fille qui devait avoir 18 ans.
Et alors, il y a le recteur de l'université qui vient vous donner son avis, hein, qui vient à l'hôpital. Je vous propose, là encore, de l'entendre. Il est archéologue, le recteur de l'université.
Oui, tout à fait, c'est lui qui nous avait accueillis.
C'est le fameux qui vous avait accueilli 5 ans plus tôt et qui vous avait envoyé directement sur le terrain. Et il va vous donner son sentiment sur cette momie exceptionnelle.
J'ai tout de suite dit que c'est une tombe extraordinaire, unique, que je rencontre pour la première fois. C'est pour cela qu'il est difficile de faire une synthèse. Mais on peut dire que je suis d'accord avec l'idée qu'il s'agit d'une tombe de chaman. Premièrement, ce qui me pousse vers cette idée, c'est que les manches étaient cousues. Deuxièmement, c'est vous qui avez confirmé cette idée en me montrant cette ceinture, la ceinture de la Vierge. Or, les femmes chamanes, les oudaganes, habituellement n'étaient pas mariées. Il est donc logique qu'une chamane porte cette ceinture.
Un nouvel extrait du documentaire de Marc Jampolsky, Les mystères de Kiss, la chamane. Je donne le titre parce que, enfin, maintenant on sait, cette femme, c'était une chamane. Kiss, ça veut dire la jeune fille ?
La jeune fille. L'emplacement s'appelait Kisunuga, ce qui veut dire la tombe de la jeune fille. Et donc, par la suite, on a montré qu'en fait, dire la tombe de la jeune fille, en fait, c'est un synonyme de dire la tombe de la chamane.
Pourquoi était-elle ligotée, cette chamane ?
Alors, en fait, il y a un voyageur qui, à peu près à la même époque, au niveau du lac Baïkal, a décrit certains chamans. Et chez les Yakouts, il y avait cette croyance comme quoi la force arrivait à la naissance et cette force allait se renforcer jusqu'aux premières relations sexuelles. Et après, cette force diminuait. Et elle diminuait chez les femmes, évidemment, très vite au moment des accouchements. Et à un moment, quand on était âgé, en fait, un Yakout qui avait eu des petits-enfants considérait que sa force était épuisée, qu'il était temps de mourir. Et d'après ce qui est dit dans plusieurs textes de façon indépendante, le Yakout en question pouvait organiser un repas. Et à la fin du repas, qui était son repas funéraire, il était tué.
Donc si je vous suis bien, dans le cas présent, c'est une jeune fille, donc elle avait encore toute sa force, parce qu'elle n'était pas arrivée au bout de sa vie.
Et alors, tout à fait, parce que donc l'autopsie a montré qu'elle n'avait pas eu de relations sexuelles, et donc c'était une jeune fille qui était au sommet de sa force, et donc les chamans les plus craintes étaient donc ces jeunes filles au sommet de leur force, ces jeunes filles vierges, et qui portaient donc cette ceinture qui signifiait leur virginité.
Et donc on l'a ligotée parce qu'on pensait que le pouvoir, la force des chamans allait au-delà de la mort et qu'elle pourrait encore exercer ses pouvoirs, donc c'est une façon de la contraindre.
Tout à fait, c'est-à-dire que les Yakouts, alors il y a des questions évidemment de traduction pour les scientifiques, mais d'une façon générale, ils pensaient que les sujets avaient trois âmes. Il y en avait une qu'on obtenait au moment de la naissance, une autre qui apparaissait après, et une troisième qu'on obtenait justement au moment où on avait cette grande force. Et au moment du décès, il y en avait une qui disparaissait, le souffle vital en quelque sorte. Une autre entreprenait un voyage vers ce qu'on pourrait appeler chez nous un paradis ou autre. Et la troisième restait dans la tombe. Et c'est pour ça que les Yakouts ont très peur des tombes, puisqu'elle est toujours habitée en partie par une partie. Et alors, la question qui se pose, c'est de savoir, mais ça dure combien de temps? Bon, les réponses sont énigmatiques, sauf pour les chamans, où on sait, il y a plusieurs personnes, dont Mandar, qui disent que ça reste plusieurs centaines d'années.
Ouais. Mandar, c'est le forgeron qui connaît très bien les cultures et le savoir de ses ancêtres. Il y a aussi une réflexion, alors elle n'est pas dans le film, mais vous me l'avez confié, du recteur archéologue, qui vous dit pourquoi elle a été ligotée, parce que justement c'était une chamane et qu'on avait peur qu'elle revienne. Et il vous dit cette phrase presque inquiétante.
C'est pas inquiétante, mais c'est effectivement c'est ce collègue formé sous l'Union soviétique, agnostique et président d'université, et c'est une phrase qui a été coupée parce que le fait que ça paraissait tellement extraordinaire, comme disait Marc Champolsky, mais écoute, si je mets ça dans le film, comme ça les gens vont pas nous croire. Et en fait, le recteur dit oui, c'est une chamane et elle était très puissante. Nous en avons la preuve puisque elle a réussi à se faire déligoter.
Oui, parce que finalement, vous, les archéologues, en l'exhumant et en enlevant ses liens pour étudier le corps,
vous l'avez libérée.
Et lui, qui est archéologue, qui est scientifique, se dit, c'est par la puissance de cette chamane que vous êtes allé la déterrer.
Oui, bien sûr.
On voit par là à quel point les croyances sont encore très présentes dans la culture locale.
Tout à fait.
Est-ce que parfois ça vous a inquiété? Est-ce que vous vous êtes mis finalement à être un peu sensible à toutes ces croyances qui entourent les recherches que vous faites?
Sensible aux croyances, oui, ce serait dommage de passer tout ce temps
Yakouti. Non, mais à en faire des cauchemars, à être un peu imprégné de tout ça, peut-être.
Des cauchemars, non, mais on a été effectivement au contact. Alors, c'était assez intéressant parce que justement, durant ce film, Marc Champolsky recherchait des chamans. Et on n'en a jamais retrouvé. Et quelques années plus tard, j'ai eu un terrible lumbago sur le terrain. Et mes collègues m'ont dit, écoute, on va t'amener dans un village où une chamane va te traiter. Et j'avoue que là, d'abord, j'avais très mal. Les anti-inflammatoires n'y faisaient pas grand-chose, mais peut-être aussi que j'aurais dû me calmer sur le terrain. Et donc, j'ai accepté d'aller dans ce village. Et là, j'ai rencontré une dame, je vous épargne la façon dont ça s'est déroulé, de façon, je dirais, très protocolaire, qui était fort sympathique, gentille, et qui m'a dit « Ah, mais je peux vous faire passer cet élément ». Et j'avais une collègue avec moi, passionnée par le chamanisme, et donc cette dame qui se disait chamane, alors elle me dit « Oui, je suis chamane, mais enfin, bon, pour vous, c'est pas du chamanisme ». Et donc cette dame m'entraîne dans la pièce d'à côté, me parle de sa fille qui fait des études de médecine à Yakoutsk, qui l'a rejoint pendant l'été, Et elle m'examine, elle me dit « Ah, vous avez deux choses. Une chose que je vais vous faire passer, je vois très bien de quoi il s'agit, c'est ce que les médecins appellent un lumbago, une contracture. » Elle me dit « Vous avez une autre chose plus sérieuse, ça je ne peux pas vous faire passer, ça c'était une sciatique. En gros, c'est la racine nerveuse qui est coincée, il faut effectivement, ça disparaît pas comme ça du jour au lendemain. » Et donc déjà, quand elle me dit ça, j'étais assez soulagé, quoi. J'avais quelqu'un qui avait un raisonnement médical. Elle me masse, et puis je me relève, je sors de la pièce sans... Le lumbago était passé, et ma collègue me dit « Mais tu n'as pas eu très mal ?» Je dis « Mais non, mais enfin Christiane, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle me dit « Mais tu étais allongé, puis elle t'a fait mettre debout, puis tu t'es allongé, sa fille est rentrée dans la pièce, elle t'a marché sur le dos, puis tu es réallongé, etc. » En fait, j'ai été victime d'une séance d'hypnose.
Ouais. Vous n'avez aucun souvenir de ce qui s'est réellement passé ?
Aucun. Pour moi, j'étais sur le banc, et puis j'en suis ressorti guéri. Et donc, ça a été une de mes grandes rencontres. Cette dame se disait chamane, en tout cas. Ouais. Elle était très forte, si vous voulez, très forte.
Allez, on continue les récits incroyables. Hein. Vous le dites, hein, souvent quand on part en Yakoutie, on hésite à raconter ses souvenirs parce qu'on a peur parfois de ne pas être cru. Hein.
Oui, mais bon, c'est peut-être l'occasion.
C'est l'occasion. Kisla Chaman a été découverte il y a une dizaine d'années. Depuis, vous en avez fait d'autres, des découvertes que vous allez nous raconter dans un instant. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac sur France Inter.
Là où tout est, tout sépare, vers où tout va passer après. Alors chante là où tout est. Chante là où tout est, tout sépare, vers où tout va passer après. Alors chante là où tout est. Chante tes tendresses et chante ta rage, chante les rencontres et les voyages, les coins de rue, les petits passages. Chante pour les fous, chante pour les sages. De là où tout est, tout sépare, vers où tout va passer après. Alors chante de là où tout est. Chante qui tout est, quitte ce que tout sait, qui est tout sans, tous ces pensées qui vont peser sur tous tes sens. Les chants les cachent dans les silences. Pour danser, danse pour aller juste à côté, côté de la mer, côté de la nuit, côté de la mort, côté de la vie, côté de la vie. Chante pour celui qui baisse la tête, pour les enfants qui font la fête, pour tous ces gens qui ont oublié que eux aussi ils peuvent chanter. Papa, 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 papa.
C'était Lior Chouve dans Le Temps d'un Bivouac. Chante de là où tu es.
Dieu, mais il y a des bijoux partout.
T'as vu toutes les perles? Les perles, et puis t'as tous les éléments en alliage cuivreux. Ah, puis tu vois, regarde là, il y en a un. Regarde avec les chevaux stylisés. Tu le vois, là?
Oui, là, sur le côté.
Tu vois, c'est ces perles bleues, on appelle ça des padre beads. Donc, tu en as qu'un cette forme-là, et tu en as des plus petites.
D'accord.
Donc, elles sont d'origine différente. Alors, il y en a qui sont chinoises, et puis tu en as d'autres qui sont d'origine plutôt vénitienne.
Ah oui, carrément même... des deux
côtés.
Ah oui,
ou de Bohème. Ou de Bohème, tu vois, il y a eu des grosses productions de perles en Bohème. Là, elle a un torque. Au niveau des bijoux, elle a quand même beaucoup de choses. Hein. Donc, tu vois, elle a les boucles d'oreilles qu'elle a dû porter. Donc, elle a peut-être une autre sous la tête. Et alors là, oh, c'est étonnant. Elle a trois chevalières, là. Regarde ça. Oui, tu les vois, là, les trois bagues?
L'une à côté de l'autre.
Ouais, là, elles sont accrochées à la boucle d'oreille. Mm-hmm. Alors, ça, c'est étonnant.
Éric Crubezy, archéologue, auteur de « Vainqueur ou vaincu, l'énigme de la Yakoutie » chez Odile Jacob. Vous avez reconnu la voix de l'archéologue que l'on entendait là à l'instant dans
Christine
l'extrait.
Christine Petit qui est avec nous depuis une quinzaine d'années, bien sûr, dès le départ.
Elle fait partie de votre équipe. Elle était filmée pour Arte, pour le documentaire « L'énigme Yakout » dans la série « Les enquêtes archéologiques » qui a été diffusée en début 2017. Alors, quand on entend ce son, elle est en train de s'extasier hein, sur les bijoux. Vraiment, elle est complètement enthousiaste. Il faut bien avoir l'image en tête. Hein. C'est un squelette avec la peau tannée, noircie. Enfin, ça pourrait avoir sa place dans un train fantôme ou dans un petit musée des horreurs. Elle est complètement subjuguée devant la beauté de ce qu'elle voit. Il y a un œil particulier de l'archéologue qui arrive à se projeter au-delà des apparences, qui reconstitue tout un passé à partir de ces images pour qui n'est pas initié, qui pourrait être un peu morbide finalement.
Heureusement, je dirais qu'on arrive effectivement à se projeter parce que la tombe dont elle parle n'était pas remarquablement bien conservée comme celle de Kiss, mais les bijoux qu'il y avait étaient absolument étonnants et nous ont vraiment beaucoup renseigné sur les relations des Russes et des Yakoutes. Ouais. Notamment, on a pu démontrer que la dame dont elle parle, depuis le documentaire, nos études ont progressé, et on a pu démontrer que c'était la femme de l'un des principaux chefs Yakoutes qui a discuté avec les Russes. Et donc, cette femme avait non seulement des richesses, mais en plus, elle avait par exemple un poignard qui était un cadeau réservé par le tsar de l'époque aux élites.
C'est ce qu'on n'a peut-être pas encore assez dit dans cette émission, c'est à quel point ces sépultures racontent toute une histoire. On parlait des perles, ça montre l'enrichissement d'une population, justement au moment où les Russes sont arrivés, ils se sont servis des Yakoutes pour mener des commerces, des échanges, et les Yakoutes se sont enrichis. On ne l'a pas dit aussi, Kiss la chamane, vous avez pu identifier la cause de sa mort. De quoi est-elle morte ?
De tuberculose.
Et là aussi, c'est un vestige de cette population qui a croisé d'autres populations et qui a apporté des virus. Donc là aussi, on a des renseignements sur les échanges qu'il y a pu avoir pour le meilleur et pour le pire.
Alors pour le meilleur et pour le pire, mais je dirais votre réflexion est intéressante parce que vous dites oui, les Russes, parce que c'est effectivement c'est l'idée, leur ont apporté, ils ont fait du commerce, etc. En fait, c'était ce titre de l'ouvrage qui sort s'appelle « Vainqueur ou vaincu ». C'est parce que la question qui se pose, c'est que vu du côté russe, ce sont des vaincus, ils ont été mis sous la coupe. Le tsar a toujours proclamé qu'il était maître chez lui en Yakoutie. Mais en fait, quand on regarde les tombes et qu'on re-approche l'histoire, on s'aperçoit que ce sont les Yakoutes qui se sont servis des Russes. Parce que la grande question qui se pose justement, c'est comment quelques milliers de personnes en 1620, qui étaient entourées par d'autres populations, sont devenues en 1922 tellement puissants qu'ils régnaient sur un territoire de 3 millions de kilomètres carrés. Ils avaient une élite qui envoyait ses enfants faire des études de médecine et qui vaccinait la population. Et dans le même temps, ils ont négocié avec le nouveau pouvoir soviétique une république autonome. Donc comment ça s'est passé ?
Alors on va en parler hein, de ça, mais un petit peu plus tard dans l'émission, si vous le voulez bien, Éric Crubezy. Restons encore un peu sur ces découvertes archéologiques que vous faites. Alors, on a parlé de Kiss la chamane, parce que c'est la première vraiment spectaculaire que vous faites. Mais depuis, il y en a eu d'autres, notamment alors celle que vous avez appelée la tombe de la chamane au fouet magique. Je crois, on se croirait un peu dans des Indiana Jones hein, quand on lit les intitulés. Mais je crois que cette comparaison vous plaît pas trop parce que.
Oh, c'est pas, je veux dire, Indiana Jones c'était bien ou c'était pas bien, etc. Nos expéditions ont un côté effectivement qui est un côté d'expédition. C'est d'ailleurs cet élément. À Yakoutie, il n'y a pas de route, donc il faut y arriver. En gros, la Yakoutie fait 3 millions de kilomètres carrés. La première année, comme je vous l'ai dit, on est allé à 15 kilomètres de Yakoutsk. D'accord. Maintenant, il nous arrive d'aller à plus de 2000 kilomètres de Yakoutsk. Mais pour aller à plus de 2000 kilomètres de Yakoutsk, il nous a fallu 15 ans. C'est-à-dire qu'il a fallu comprendre le terrain, savoir négocier des hélicoptères, savoir, ça, c'est pas tout d'avoir un hélicoptère, faut-il encore avoir un endroit pour se poser, d'accord? Et une fois qu'on est posé, que l'hélicoptère s'en va, eh bien, on a un rayon d'action qui est assez limité, quoi, 5 kilomètres. Donc, il a fallu organiser tous ces éléments et ça ne peut se faire que sur la longue durée. Effectivement, c'est pas un Indiana Jones qui arrive et qui, donc, c'est là la grande différence, c'est le côté professionnel et sur le temps long.
Alors, la tombe de la chamane au fouet magique, comment vous l'avez trouvée celle-ci?
La tombe de la chamane au fouet magique, alors la question qui nous intriguait, nous, et qui intriguait aussi certains collègues, c'est quand on a trouvé Kiss, on dit toujours c'est quelque chose d'extraordinaire. Les choses extraordinaires, c'est est-ce que si les Yakoutes n'avaient enterré qu'une seule chamane, pourquoi l'aurions-nous trouvée? Le recteur vous répondrait, c'est parce qu'elle nous a attirés, d'accord? Mais en dehors de ça, d'un point de vue plus scientifique, en gros, on peut penser qu'ils enterraient régulièrement des chamanes et qu'on a eu la chance d'en trouver une. Et en fait, depuis, si vous voulez, on a fait au moins trois découvertes semblables, dont une qui est quasiment synonyme, puisque c'était une autre Kisunuga. Et ensuite, il y a eu cette fameuse tombe, un peu comme Kiss, et déposé à la surface de la tombe, un fouet, qui était assez extraordinaire. Il était en trois parties, il y avait 9 colonnes qui entouraient le manche du fouet. Et il y a une légende yakoute fameuse dans la région qui dit qu'il y avait une chamane au fouet magique, et c'est un fouet qui est décrit par la légende, et ce qui correspond exactement au fouet qu'on a trouvé. Ouais. Et il y a une dame qui vient et qui était âgée, qui est amenée par son petit-fils, et qui nous dit oh, « Vous avez fouillé tel tombe. Moi, quand je passais à côté le matin, parce que j'habitais à l'autre endroit, mes parents me disaient surtout « Surtout ne t'approche pas de cette tombe, parce que là, il y a une femme très dangereuse qui est enterrée. »
Et vous disiez, il y a ce débat des populations locales qui ont cette curiosité, mais qui en même temps ont cette réticence. Je vous propose d'écouter justement une archéologue yakoute qui vous accompagne lors de vos fouilles.
Pour moi, c'est vraiment une grande chance de pouvoir assister à ces fouilles, parce que c'est merveilleux de voir l'histoire de mon peuple. Mm-hmm. Mais les Yakoutes, en général, nous, on a peur de la mort, en général. Les gens, quand on est sur le terrain, par exemple, les locaux, ils viennent voir, mais ils ne se rapprochent pas trop des tombes, parce que il y a toujours cette idée que la mort peut contaminer. Mm-hmm. Mais en même temps, ils sont très curieux. Et ils sont curieux de savoir, voilà, les gens, ce qu'ils portaient, le mobilier, avoir les costumes, les bijoux.
Voici donc le point de vue de cet archéologue yakoute qui se nomme Lubormina Romanova. Vous la connaissez, évidemment, elle vous accompagne lors de vos fouilles.
Oui, elle est professeure de français à l'université de Yakoutsk, donc c'est elle qui effectivement facilite beaucoup les fouilles, parce que elle parle évidemment très bien français, russe et aussi yakoute, et les populations locales ne parlent qu'en yakoute, et donc c'est elle qui fait l'intermédiaire.
D'accord. Vous avez été adopté après 15 années à passer plusieurs semaines par an sur ce territoire, vous avez été adopté par les locaux?
Oui, je suis un peu le yakoute français avec, en fait, le film dont vous avez parlé a été un tournant, parce que ce film, Kiss la chamane, a été traduit en russe et a été projeté 2 fois en Yakoutie, 2 années de suite, la veille de Noël. Donc, la Yakoutie, ça fait 1 million d'habitants. Il a été vu par à peu près tout le monde. Et donc, après, quand on allait dans un village, les gens nous ont reconnus. Et ce qui est assez étonnant, si vous voulez, ça a été l'effet film. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a eu une partie de la population qui a dit « Oulala, méfions-nous, quand ils viennent chez nous, c'est pour fouiller des chamans et ça va nous poser problème ». Mais curieusement, ça n'a pas duré très longtemps. Et bien souvent maintenant, les gens nous écrivent en disant « Venez chez nous, parce que venez faire un documentaire chez nous, on a été connus ». Et donc, il y a une évolution complète de la population.
Alors évidemment, vous le faites avec un immense respect, d'ailleurs, Kiss la chamane. Après avoir étudié la dépouille, vous l'avez à nouveau inhumée. C'était une promesse que vous aviez faite. Vous l'avez de nouveau remise dans son tombeau, dans son cercueil.
Totalement, donc ça se fait, c'est ce que je dis, ça se fait en fait en accord toujours avec des populations locales, c'est une fouille franco-yakoute, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ces éléments-là. Mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est l'évolution de la population depuis 2002. C'est-à-dire, on est passé d'une crainte à s'expliquer justement Lubomira dans le documentaire. Vraiment, les Yakoutes considèrent que c'est nous, en quelque sorte, qui fabriquons leur histoire. Et désormais, chaque année, nos collègues yakoutes, à la fin de nos expéditions, font plusieurs émissions de radio et de télé où ils expliquent ce qu'ils ont trouvé.
Alors, tous ces travaux ont pour but de retracer cette histoire de ce peuple yakoute. Il y a eu une énigme sur ce peuple. Ils se sont non seulement adaptés, mais en plus ils ont prospéré. Le territoire qu'ils occupent est de plus en plus vaste.
Totalement, c'est le plus intriguant. C'est-à-dire que lors du contact avec les Russes, on aurait pu s'attendre, alors même qu'ils sont effectivement victimes d'épidémies de tuberculose, de variole, on aurait pu s'attendre à ce que les Yakoutes, finalement, comme de nombreux peuples qui ont été colonisés, disparaissent. Et bien pour eux, c'est l'inverse. Mm-hmm. C'est-à-dire que non seulement ils ne vont pas disparaître, mais ils vont s'étendre.
Au même moment, les Vikings au Groenland, eux, disparaissent. C'est-à-dire que des populations qui étaient confrontées à peu près au même climat, aux mêmes situations, n'ont pas eu le même sort.
Oui, totalement. C'est-à-dire que les Vikings au Moyen-Âge sont arrivés au Groenland. Ouais. Ils y sont restés pendant 300-400 ans et ils ont disparu. Aussi, c'était des éleveurs qui sont arrivés dans un pays très froid. Ouais. Et les Yakoutes, c'est, je dirais, un peu décalé. La même histoire, mais avec un dénouement qui est totalement différent.
Alors comment la population yakoute a résisté à la rudesse du climat, à l'arrivée du voisin russe aussi? C'est aussi à cette énigme que vos recherches tentent de répondre, Éric Rubézy. Vous allez nous l'expliquer dans un instant.
Jet, whisper, jet, clipper, jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Où je suis rendu? J'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés dans les peaux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie qui venait de partir. Sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Y avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient dans dedans et qui faisaient le ballon. Dans le vent, c'était absolument, absolument, absolument très salissant. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus, je sais plus, je sais plus, je suis rendu. Sophie à moi a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie. C'est plus parti. Et moi, à propos, et moi, je suis rendu à dos du chameau. Je préfère mon Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Je ne sais plus où je suis rendu. Puis j'ai fait une crise de chute en parachute. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuit. Allez là, que j'avais ramassé. Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American.
Lindbergh par Robert Charleroi et Louise Forestier sur France Inter.
Bientôt viendront ici les longs nez. Ils couperont la forêt. Ils fouilleront la terre. Craignez cela. Protégez votre terre. Sinon, vous oublierez votre histoire, votre passé. Vous ne serez plus un peuple.
Extrait d'un conte yakout que l'on se transmet de génération en génération. Éric Rubézy, vous êtes l'un de ces longs nez venus retourner la terre, mais vous le faites aux côtés des populations locales et justement dans le but qu'elles renouent avec leur histoire, au contraire, qu'elles ne l'oublient pas finalement.
Oui, c'est-à-dire que l'histoire des Yakouts est en fait une histoire qui n'a presque jamais été écrite. Ouais. Elle n'a jamais été écrite parce que les Russes arrivent en 1620, les Yakouts n'ont pas de documents écrits, et il y a une intelligentsia Yakout qui naît progressivement au cours du XIXe siècle, et à la fin du XIXe siècle, cette intelligentsia Yakout va écrire son histoire. Évidemment, ça va être une histoire sublimée. Et ensuite, l'URSS va réorganiser cette histoire, et elle va la réorganiser avec notamment ce qu'on appelle les années de grande censure, c'est-à-dire que c'est assez terrible quand on va à Yakoutsk et qu'on est à l'Académie des sciences, on regarde les noms de tous les académiciens qui ont dirigé l'Académie des sciences, et tout ce que nous considérons comme des grands noms maintenant, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont restés que quelques années en poste, ils ont tous fini fusillés ou déportés. C'est-à-dire que dès que quelqu'un commençait à, je dirais, à réellement interpréter l'histoire, il était éliminé.
On se rend compte par là qu'effectivement, c'est pas anodin la façon dont on raconte l'histoire. Et pour vous, il y a cette ce que vous appelez l'énigme yakout. C'est quoi en fait la question sur cette population?
Les Russes arrivent en 1620. Les Yakouts, à ce moment-là, sont au maximum 40 000, essentiellement en Yakoutie centrale, donc dans un tout petit endroit. Et ils vont être confrontés effectivement aux Russes, à leur maladie, on en a parlé, comme Kiss, qui décède de tuberculose. Mais quand on regarde les recensements, en 1922, ils sont plus de 200 000, et ils occupent une surface de 3 millions de kilomètres carrés, équivalente à celle de l'Inde, tout de même. Et eux, ils vont négocier la République autonome avec les Russes. Et les populations qui les entouraient au départ ont presque totalement disparu.
C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes, en fait, envahisseurs. Ils viennent.
Alors, eux, effectivement, ils sont certainement arrivés vers le 13e, 14e siècle. Un petit groupe est arrivé remontant du sud au 13e, 14e siècle. Dès qu'ils sont arrivés, apparemment, ils sont rentrés en conflit avec les populations locales, qui étaient essentiellement des chasseurs-cueilleurs. Parce que le pays est très riche en gibier. Et justement, comment, à partir du XVIIe siècle, vont-ils régner sur cet ensemble? Ça, c'est vraiment une énigme. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'aucun élément pris seul ne l'explique. Si vous voulez. Il y a une conjonction de facteurs, et parmi ces facteurs, il y en a un qui est quand même d'importance, c'est qu'ils se sont finalement servis des Russes à leur insu, pour éliminer les autres.
Ouais, d'où le titre de votre ouvrage qui vient de paraître chez Odile Jacob, Vainqueur ou vaincu. On n'est plus très sûr, une fois qu'on vous a lu, que les Yakouts sont des victimes de l'invasion russe. Au contraire, ce sont certainement des vainqueurs.
Justement, c'était même les Russes, au moment de l'URSS, ne parlaient pas d'invasion ni de colonisation, mais plutôt d'assimilation, si vous voulez, parce qu'ils avaient eux-mêmes s'étaient bien rendus compte. Et ce titre, effectivement, c'est-à-dire les vainqueurs ou les vaincus, c'est-à-dire quand on regarde les documents historiques qui sont essentiellement écrits par les Russes, les Yakouts sont vaincus. Et quand on regarde nos documents archéologiques, tout à l'heure l'interview de Christiane Petit qui s'émerveillait devant ses perles, ses richesses dont je vous parle, on a l'impression au contraire que les Yakouts, eh bien, ils ont prospéré, si vous voulez. Et justement, cet ouvrage porte sur cette ambiguïté. Comment lire l'archéologie, l'histoire, la génétique? Est-ce que ça se complète? Est-ce que ça se complète pas? Et ça, c'est une question même qui dépasse largement le cadre de la Yakoutie.
Ouais. Parce que la génétique aussi est un outil que vous utilisez. Vous allez à la rencontre contre des populations locales, et puis vous réalisez des prélèvements de salive pour faire ensuite des analyses génétiques. Ça se passe comment? Et bien ça se passe comme ça.
Bonjour,
Bonjour. Je m'adresse à madame parce que je crois que c'est la chef de l'administration. Donc, tu lui dis que je la remercie de nous accueillir dans le village. Donc, je vais commencer les prélèvements avec madame. Alors, madame est originaire du village. Et c'est, elle sait si ses parents sont nés ici. D'accord, donc elle se met debout. Là. Ça va aller vite, et ça fait pas mal. Donc, il n'y a pas de... Et je la remercie déjà de participer à ça.
On voit là, Éric Trubézy, vous êtes médecin de formation, on sent que vous avez l'habitude de faire ça pour mettre les gens à l'aise. Il s'agit juste de prélever un peu de salive dans la bouche pour faire ensuite des analyses génétiques. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'était un extrait de l'énigme Yakout diffusé dans la série Enquête archéologique d'Arte. À quoi ça vous sert, ces tests ADN que vous faites sur les populations?
Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment a évolué la population. Et un des éléments les plus extraordinaires que nous ayons pu mettre en évidence, qui est justement un des sujets de ce livre, c'est qu'au XVIIe siècle, au moment où les Russes arrivent, il y avait en fait plusieurs chefs yakoutes. Et la population yakoute était assez diverse. Et puis, il va y avoir une entente entre un des chefs yakoutes et les Russes. Et ce chef yakoute, nous ne l'avons pas fouillé. Mais par différentes hypothèses, nous avons fouillé un de ses fils. Et ce fils a un groupe génétique très particulier. Et ils vont tellement gagner, non seulement sur les populations environnantes, mais aussi sur les autres populations, qu'actuellement, plus de 20% de la population yakoute masculine descend de cette lignée de la fin du XVIIe siècle. Alors ça, c'est un exemple qui est unique au monde, quoi. Ouais. C'est-à-dire que actuellement, 20% des hommes sont des descendants directs du chef qui s'est entendu. Or, pourquoi, si vous voulez, on tente d'y répondre, mais en fait, ce chef devenait tellement riche par rapport aux autres qu'il avait plusieurs femmes. Et il y a des recensements qui ont été menés par les Russes à cette époque qui disent, mais absolument, c'est incroyable. Quand on regarde cet homme et quand on regarde ses petits-enfants, ça représente 70 sujets masculins entre lui, ses fils et ses petits-enfants.
Pour qu'on comprenne toute la singularité de cette situation, il y a un parallèle qui est assez saisissant que vous faites. Si on se projette sur l'Amérique du Nord et sur ce qui s'est passé avec les Indiens qui y vivent et qu'on fait un parallèle, comment ça se serait passé?
Imaginons qu'en Amérique du Nord, une partie d'une tribu, des grandes plaines, ait écrasé les autres, et puis très rapidement, ait pris contact avec le roi d'Angleterre pour lui dire « Écoutez, maintenant c'est nous les chefs, on va s'entendre et on veut notre autonomie. » C'est exactement la même chose qui s'est passée.
Alors les Yakoutes, on le comprend, ont particulièrement bien résisté au cours de ces 5 derniers siècles. Ils ont même fait mieux que résister puisqu'ils se sont développés, étendus. Mais comment résistent-ils aujourd'hui à la mondialisation ?
C'est-à-dire que c'est comme pour, ce qui s'est passé avant. C'est pas une question de résistance, en fait. C'est-à-dire, c'est de prendre les forces et de s'en servir pour aller plus loin. En 2002, la ville de Yakoutsk, c'était une ville en bois, qui était un petit centre inconnu. Tout a été rasé. Et maintenant, c'est une ville prospère, avec d'énormes immeubles en verre qui sont construits par les meilleurs designers du Nord. Parce que quand même, c'est la République Yakoute, c'est la deuxième république diamantaire au monde. C'est les plus grosses réserves de gaz qui sont finalement à quelques milliers de kilomètres de la Chine. Ouais. Et ils sont justement en train de se servir de cet élément, et toujours en relation avec le pouvoir de Moscou, pour gagner plus de richesses.
Ouais. Donc ils ont de sérieux atouts à faire valoir dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ces recherches vous ont apporté et vous ont enseigné sur l'histoire et la façon dont elle se raconte ?
Mais sur la façon dont elle se raconte, c'est que finalement, il n'y aurait pas d'histoire. Il n'y aurait que des points de vue. D'une part, il n'y aurait que des points de vue. Il y a le point de vue des Russes, il y a le point de vue des Yakoutes, il y a même certainement le point de vue qu'on ne connaît pas trop à l'heure actuelle des autres populations. Et ensuite, suivant les documents que vous interrogez, on obtient effectivement des histoires qui sont complètement différentes. Et pour moi, là, ce qui reste un objet d'interrogation, c'est de savoir si ces documents sont complémentaires ou s'ils racontent des histoires totalement différentes.
Il n'y a pas d'histoire, il n'y a que des points de vue. Voilà la leçon d'Éric Crubezy. Je rappelle le titre de votre livre, justement, « Vainqueur ou vaincu, l'énigme de la Yakoutie » aux éditions Odile Jacob. Merci Éric Crubezy et bon voyage en Yakoutie. Je crois que vous partez très bientôt pour une nouvelle expédition.
Tout à fait, merci à vous.
Après le flash, nous partirons à la découverte des médecines d'ailleurs avec le médecin urgentiste Bernard Fontanil. Il est allé à la rencontre des chamans de la forêt amazonienne, des guérisseurs Maasai du Kenya ou encore des moines Shaolin de Chine pour découvrir leurs pratiques. Il va nous raconter ça dans un instant.